When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferbeuf.
Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Julien Moss, qui est fondateur de Eddy Sound. Bonjour Julien.
Bonjour.
C'est un plaisir de t'avoir pour ce podcast. Alors, c'est ce que je disais, c'est que bon, il y a eu quand même près de plus de 150 épisodes sur l'Entertainment Lab. Et ben, il fallait attendre de te rencontrer pour parler d'audio. Donc, c'est une bonne transition. Comment t'en es arrivé, Julien, à monter Eddy Sound? Voilà, les grandes lignes de ton parcours pour mieux te connaître déjà.
Oui, assez simplement, ça fait 25 ans que je travaille dans la publicité digitale. J'ai travaillé pour des grandes entreprises internationales comme Yahoo sur des mécaniques de display ou de search performance. Et puis ensuite, j'ai créé en France une régie qui s'appelait Ligatus pour des Allemands qui étaient dans le performance marketing, que j'ai internationalisé dans une dizaine de marchés en Europe principalement. Et après avoir revendu l'entreprise à Outbrain, c'était une entreprise qui faisait à l'époque à peu près 200 employés, presque 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, pas tout à fait. Je les ai accompagnés dans la PMI, c'est-à-dire l'intégration des plateformes et des équipes et des bureaux pendant quasiment 2 ans. Mmh. Et à l'issue de ça, j'ai regardé plusieurs marchés et... étant un consommateur de l'audio et ayant trouvé la problématique assez évidente, j'ai fondé Eddy Sound pour répondre aux besoins du marché, des médias et des marques.
Super.
Pour leurs besoins en audio digital.
Ok, donc tu es vraiment entrepreneur du digital, tombé dans le marketing digital et maintenant se spécialisant, je dirais, dans l'audio. Voilà, donc moi je voulais t'inviter effectivement parce que pour la parler de l'audio, on le sait, les podcasts, on s'en est un, qui est un nouveau format, qui est un vrai engouement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que fait Eddy Sound dans son activité et comment tu vois un peu ce sujet audio aujourd'hui?
Oui, alors on se qualifie comme une ad tech, c'est-à-dire advertising technology, spécialisée dans l'audio digital. Donc on a deux cibles, deux typologies de partenariats. D'un côté, les médias. Auxquels on offre notre CMS qui leur permet d'éditer, d'héberger, de distribuer et monétiser leurs inventaires audio, plus spécialement podcast en tout cas au départ.
D'accord. Qui peuvent être aussi dérivés de l'image des vidéos ou qui sont de pure audio qu'ils ont dans leurs médias.
C'est une bonne question, c'est qu'aujourd'hui quand on parle de podcast, on distingue déjà les podcasts de replay, de la radio qui font à peu près 2/3 de la consommation et l'autre tiers ce sont ce qu'on appelle les podcasts dits natifs, donc qui ont été créés pour le digital. Et puis il y a aujourd'hui des éditeurs qui produisent un contenu qu'ils le pensent multiformat, et typiquement pour qu'il soit joué soit en vidéo, soit en audio. Et c'est pas à toi que je vais apprendre ça. Il y a de plus en plus de frontières poreuses entre le monde de la vidéo et du podcast. Il y a des podcasts qui sont filmés.
C'est vrai, c'est vrai. T'aimes bien, toi d'ailleurs, je sors un peu de la question, mais t'aimes bien les podcasts filmés, toi en vrai, ou tu préfères en audio? T'as un point de vue là-dessus?
Alors, moi, mon point de vue en tant qu'utilisateur, c'est que j'aime beaucoup la liberté d'avoir un contenu qui fasse que mes yeux puissent aller autre part que sur un écran, parce qu'on a quand même une saturation de consommation des écrans.
Et je trouve que
c'est le gros upside sur le gros avantage du podcast. Après, typiquement, la dernière fois que je suis parti courir, je me suis mis un podcast, je me suis dit, tiens, il va plaire à mon papa, je l'ai envoyé. Et quelques jours après, il m'a dit, tiens, j'ai vu ton podcast. Je lui ai dit, vu ou entendu? Il me dit, oui, je l'ai vu. Moi-même, j'avais même pas fait attention qu'il était filmé. Et lui, il a pris le plaisir à le regarder et moi à l'écouter. Donc, je pense qu'en fait, encore une fois, si tu parles du contenu, aujourd'hui, les partenaires à qui je parle en France et un peu partout en Europe et dans le monde, Ils parlent plus du contenu et ils se disent on a des utilisateurs, ces utilisateurs, les audiences aujourd'hui veulent avoir le choix en fonction du moment de la journée, du contexte dans lequel ils sont, de regarder, d'écouter, de lire ou voilà. Et donc depuis que le web existe en France, aux alentours de 1995, tout le monde fait de l'écrit. La vidéo a percé assez vite là depuis 15 ans. Et l'audio maintenant, alors on parle plus d'un nouveau format parce que ça y est, on a dépassé le stade du de la nouveauté où on a quasiment un Français sur deux qui écoute des podcasts de l'audio digital et c'est quasiment 3 sur 4 aux États-Unis.
Le boost, il s'est fait quand d'ailleurs, juste pour les auditeurs, c'est intéressant, ça a été vraiment Covid, tu dirais l'accélération ou tu dirais un peu plus même avant, tu sais quoi, on est 5-6 ans, le vrai boom, tu dirais, des podcasts?
Ouais, je dirais peut-être 3-4 ans, effectivement, 3-4. Il y a eu une belle accélération au moment de la pandémie où les gens se sont retrouvés chez eux et puis après avoir rangé leur placard, plié leurs chaussettes, ils se sont dit mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et ils ont cherché des contenus en ligne et c'est vrai que aujourd'hui au-delà de la pandémie c'est le contenu, c'est-à-dire que sur tous les centres d'intérêt, qu'ils soient pro ou perso, pour toutes les tranches d'âge, on va trouver des contenus passionnants qui soient faits par des professionnels ou il y a aussi ce qu'on appelle l'UGC, User Generated Content, où il y a beaucoup de gens qui ont un savoir extraordinaire et qui sont pas attirés en tout cas par la vidéo parce qu'il y a l'aspect image, etc., mais qui veulent plus volontiers prêter leur voix pour transmettre leur passion, leur savoir, etc.
D'ailleurs, question de curiosité, si c'était filmé, tu te sentirais aussi à l'aise ou naturel ou c'est pas si évident que les gens qui font les... qui seraient interviewés parce que...
Non, de manière très honnête, c'est aussi une raison pour laquelle j'aime beaucoup ce format-là, c'est que je trouve qu'on se livre plus facilement autour d'un
micro. C'est intimiste, d'un quoi. Micro. Si t'es filmé, c'est un peu Big Brother. Il y a un côté dans l'image, c'est vrai... un peu plus contrôlant et donc alors que le podcast il a un côté finalement un peu libre et un peu comme tu disais un peu inattendu, il y a un peu d'inattendu encore.
C'est ce qui fait aussi donc on a parlé de nos cibles qui sont d'un côté les médias mais aussi de l'autre côté les marques qui viennent acheter les audiences qu'on a créées en installant notre player sur tout un tas de sites médias. Et ce que viennent chercher les marques, c'est justement cette proximité où quand tu écoutes un podcast, dans 80% des cas, c'est au travers d'oreillettes ou d'un casque, et il y a une proximité folle qui se crée entre la marque et son audience.
C'est un format qui est différent, il est un peu plus... long, d'ailleurs là on parle du podcast interview, mais il y a aussi maintenant des podcasts très créatifs avec des vraies narrations, des vraies histoires, et ça devient de plus en plus créatif. Et c'est vrai que c'est un format qui est plus permissif, en tout cas qui installe un peu plus les choses aussi.
Moi je ne le mets pas forcément en opposition à la vidéo, mais je pense que si on prend les similitudes, c'est on peut tout faire, tous les formats que tu retrouves en vidéo, tu peux les retrouver en podcast. Du micro-trottoir, de l'interview, de la narration, de la fiction, etc. Tout sauf que tu n'as pas l'image. Donc ça, c'est assez chouette et y a de plus en plus de créa. Alors, on n'en voit pas trop encore au Festival de Cannes ou autre parce qu'on sait que les créas aiment bien se voir de manière visible. Mais de plus en plus, je discute beaucoup moins avec les agences créatives et autres, se font un plaisir de créer autour de la voix, faire des castings avec des voix extraordinaires pour justement amener cet imaginaire où forcément quand on est sur la voix il faut faire appel, c'est comme quand on lit un bouquin, on s'imagine les personnages, les contextes, etc. Sur la vidéo c'est un peu plus récréatif pour paraphraser, où là on se laisse un peu guider par l'image sans faire
ça force. Remet la voix d'ailleurs, la voix, il y a la voix, trouver sa voix et la voix, mais ça remet la voix au centre du jeu. Et c'est vrai qu'on pense, je pensais en t'écoutant à ce que tu disais sur les acteurs ou même certaines voix off qui nous ont tous marqués, ça remet ce métier de la voix off même pour certains comédiens au cœur du jeu, quoi, dedans. Voilà, je voulais parler des voix off parce que je pense que c'est un truc qui va se développer de plus en plus. Qui ne sera pas forcément IA-isé aussi, mais on en parlera après. Mais c'est vrai qu'il reste aussi un timbre. Je précise qu'il n'y a pas deux avatars qui font cette interview. Petit trait d'humour, mais en tout cas, voilà, tu partages ce constat. Juste pour revenir sur ton business, après on va réélargir sur l'audio. Donc, tu as parlé des médias et de l'aspect, on va dire, l'intégration de ces contenus audio que tu aides à monétiser. Il y a d'autres modèles sur lesquels tu te positionnes, la prod, le sourcing, le partenariat. Comment tu.
Oui, donc on fait des partenariats avec les marques médias. On leur offre notre stack technologique. Donc, dans notre plateforme, ils vont pouvoir importer leur contenu au départ podcast, mm-hmm. éditer des tags de players qu'ils vont pouvoir injecter dans leur page article et de là créer des audiences. Une fois qu'on a dit ça, et pour revenir à ton sujet vidéo, on a créé des outils qui leur permettent de convertir leur vidéo en un clic en un podcast.
C'est sympa ça.
Et ensuite de les distribuer sur les plateformes d'écoute et augmenter le footprint de leur marque. On a créé justement au travers de l'intelligence artificielle des outils qui permettent de convertir des textes en audio et offrir la commodité aux internautes. Tu as le choix maintenant sur tout un tas d'articles, soit de lire ton contenu, soit de l'écouter. Et les usages commencent à s'installer petit à petit. Il y a des tas de gens autour de moi qui, effectivement, notamment sur les articles longs, évidemment, sur une brève, ça n'a pas vraiment de sens, mais sur des articles longs,
se mettent à l'écouter
dans des moments de transport, de trajet, ou
très
week-end tranquillement.
Ce que tu dis, je trouve. Parce que je me dis, quand la lecture, finalement, qui est si importante, on le sait qu'elle est plus compliquée, les gens ont moins de temps, on est tous sur des écrans, on se dit l'audio, il peut être un bon substitut demain, un bon livre. Enfin, peut-être qu'on va arriver à ça.
Tout à fait. Donc aujourd'hui, les intelligences artificielles à l'échelle d'un article sont tout à fait correctes. On a vraiment des voix qui sont très écoutables à l'échelle d'un long article. Et les progrès sur ces technologies sont extrêmement rapides. Donc quand j'ai démarré le business il y a 3 ans, c'était assez robotique. Là, en 2023, c'est tout à fait écoutable parfaitement. Et puis, ces IA vont progresser. Je suis certain que dans 3 ans, ça sera encore plus spectaculaire.
Donc l'étape d'après, c'est on se fait de la prospective, on se prend du Stendhal, on se prend les 20 ouvrages, on IA-ise le truc, on met un Jacques Weber qui te fait les 10 premières secondes et boum, on se fait Jacques Weber en 20 livres. Ça va poser des questions de droit de propriété intellectuelle quand même, cette histoire.
Ouais, certainement, mais
si on va y arriver, un truc comme
si
ça.
Si on voit le côté positif, ici l'IA, elle est quand même au service de l'utilisateur que nous sommes avant d'être des professionnels et nous permet justement de pouvoir choisir. On travaille beaucoup, on est une start-up européenne et on discute notamment beaucoup avec des Américains et là en ce moment avec CNN, eux ils ont une technologie inverse qui permet pour tous les podcasts natifs qu'ils produisent de retranscrire l'audio en écrit. Et donc, j'ai discuté avec le patron du digital international de l'audio et il me disait, on commence à avoir un certain volume d'audience qui s'engage avec ces contenus écrits. Tout simplement, ça te donne le choix. Et on a tous des mémoires qui sont différentes. Alors, encore une fois, à l'échelle d'une brève, c'est pas vraiment pertinent, mais sur des articles un peu de fond, parfois tu vas aimer le relire, par exemple, ton article, et pourquoi pas l'écouter une fois que tu l'as lu, ou l'inverse.
Ce qui est intéressant avec le son aussi, c'est qu'en termes de stockage, c'est un petit peu plus simple. Donc je pensais à ce que tu disais sur les channels vidéo, YouTube et tout, on sait que parfois les gens ont du mal à l'opérer, et tu te dis si tu passes tout ça en audio. C'est peut-être un peu plus facile à stocker, archiver, enfin je sais pas, il y a ça joue aussi. Parce que la vidéo, on sait, l'image est beaucoup plus lourde sur le stockage.
D'ailleurs, c'est un enjeu aujourd'hui pour les médias qui servent du contenu protéiforme, écrit, image, audio, vidéo. Et c'est sûr que pour travailler avec eux depuis un certain nombre d'années, quand on arrive avec des players audio, ils sont contents parce qu'ils savent qu'ils sont très légers. Ils ne ralentissent pas les pages. Il y a un enjeu évidemment avec Google de rapidité d'affichage des pages. Et donc le SEO est optimisé justement aussi avec les partenaires avec lesquels on travaille au niveau du podcast parce qu'ils aident les internautes à passer plus de temps sur les pages. Dans les paramètres, les algorithmes de Google, il y en a un qui est le temps passé. C'est sûr que si je clique, j'arrive sur le site et je m'en vais au bout d'une demi-seconde, c'est des clics frauduleux, soit c'est des clics qui n'ont pas été très pertinents. En revanche, si j'arrive, je clique et j'écoute par exemple un podcast pendant 20 minutes,
oui, c'est beaucoup plus qualifié, quoi.
L'algorithme de Google va détecter qu'il y a un engagement plus puissant. Voilà, donc on travaille avec, on est vraiment le partenaire audio digital aujourd'hui des marques médias et annonceurs. Et quand je dis audio, on est parti, comme tu l'as compris, du podcast natif, mais on a élargi nos spectres pour leur offrir vraiment toute la stack technologique nécessaire. On n'a pas parlé de la publicité, mais nous, notre métier, c'est de monétiser leurs inventaires derrière publicitaires. Donc, on a une régie avec des commerciaux qui vont voir le marché des agences, des annonceurs. Et bien entendu, mon éditeur partenaire garde la main, la priorité pour servir ses propres campagnes sur différents formats commerciaux, que sont le pré-roll ou le thread.
Super intéressant. En tout cas, je pense que les auditeurs, là, pour le coup, vont vraiment être intéressés par ce sujet audio. Alors, petit tuto un peu pour les auditeurs, justement. Alors, deux questions qui m'intéressent par rapport à ce que tu dis. Tout d'abord, l'aspect diffusion, parce qu'effectivement, comme dans un podcast comme celui-ci, on crée du contenu, c'est un travail, mais tu l'as dit un petit peu en filigrane, diffuser et faire en sorte de développer des vraies audiences, c'est encore un autre sujet. Donc moi, c'était ma première question, c'est comment, un peu, quelles sont les clés aujourd'hui finalement pour développer au mieux son contenu audio et toucher les audiences, parce que, donc j'imagine que c'est pas si simple. Quelles sont les quelques clés pour toi?
On connaît l'adage qui est le contenu est roi, mais la distribution est reine. Et effectivement, on a beau avoir le meilleur contenu, s'il n'est pas écouté, c'est embêtant pour tout le monde.
C'est roi et reine, ou ça peut même être parfois reine et roi, parce qu'un très bon contenu qui est ici, il va nulle part, il y a ça aussi. Hein.
Je ne vais pas rentrer dans ces débats de parité.
Oui, de genre, oui, c'est un petit trait d'humour, mais vas-y sur la distrib, intéressant.
Tu as compris la problématique, et donc du coup, tout l'enjeu d'Edisand, c'est justement d'aider, d'accompagner les marques, qu'elles soient médias ou annonceurs, pour justement ne pas subir et ne pas être
trop tributaire,
contraint et tributaire des grandes plateformes qui sont des véritables frenemies, c'est friends and enemies. Oui. Donc tout le monde est partenaire des plateformes, forcément, mais l'idée, c'est pas d'en être dépendant pour un, la création d'audience, et deux, la génération de revenus. Ça fait 20 ans que des grandes start-up californiennes sont arrivées en Europe, 15-20 ans. Et on a bien appris de ces... de leur technique. Et toute la technologie qu'on a développée, elle aide mes partenaires médias à justement reprendre le pouvoir et ne pas être dépendant de ces plateformes.
Même si aujourd'hui, on va les citer parce qu'on n'est pas là pour faire de la langue de bois. Et effectivement, Google et le référencement, j'imagine, restent clés pour. Tu l'as un peu parlé de SEO.
Oui, dans les plateformes, on a surtout parlé de Spotify et d'Apple.
J'y arrive après, évidemment. Deezer, Spotify, Deezer, Apple Podcast, ce sont les grands. Mais aussi, la visibilité en référencement sur Google devient importante pour le podcast. Il y a les deux, j'imagine.
Oui, bien sûr. Oui, parce qu'en fait, un podcast, finalement, c'est un contenu, donc c'est une image, un titre, un MP3, et donc tout ça est crawlé par Google, et donc plus j'ai d'épisodes, plus je vais avoir d'opportunités de donner de nourrir Google et de remonter dans les pages sur des mots-clés plus ou moins complexes, et d'avoir une stratégie d'occupation des pages de cette manière.
Et quant à Apple, quant aux autres Apple, tu les as cités, Deezer, Spotify, là il faut à un moment mettre des budgets marketing aussi pour que ça touche un peu plus d'audience, ou ça devrait suffire en natif?
Aujourd'hui, il n'y a pas de mécanique de découvrabilité sur ces plateformes. On peut faire de la publicité pour faire ce qu'on appelle du pré-roll, donc c'est le fameux 30 secondes qui vient de la radio ou pas, et qu'on va activer au moment où l'internaute veut écouter son podcast. Auparavant, il va écouter un message publicitaire. Donc ça existe, mais ça ne nourrit pas en écoute les podcasts. Et ça a été une des principales raisons pour laquelle j'ai créé Edisand, qui était de créer un modèle à la performance qui permet aux marques d'acheter sur un format à l'écoute, l'acquisition d'écoute pour leur podcast natif, et faire en sorte qu'ils développent leurs audiences de cette manière.
Et comment donc, ça se fait alors concrètement? Comment tu l'opères en fait, justement, cette acquisition d'audience?
C'est très simple. En fait, on utilise les flux RSS de nos partenaires. Donc, on est compatible avec 100% des plateformes d'hébergement. On importe les podcasts de cette manière au travers du RSS. Derrière, on va créer ce qu'on appelle des line items de campagne. Donc, aussi simplement que quand tu crées une campagne sur ce Facebook, tu vas dire du 1er au 30 octobre, on veut cibler les audiences des décideurs en entreprise ou les audiences sur le contexte jardin et maison, décoration. Et donc, on va choisir ce qu'on appelle un cadre de diffusion, des dates. un budget et puis ensuite un coût à l'écoute. Et on va y associer les podcasts, donc les épisodes concrètement que l'on veut médiatiser. Okay. Et donc, on a historiquement travaillé avec les grands studios parisiens qui étaient les plus à même de tester la solution en 2021. Et aujourd'hui, on peut le dire, c'est quelque chose dont on est particulièrement content, c'est qu'on a, vraiment la confiance de l'industrie de création audio avec plusieurs dizaines de studios de podcasts qui font de l'acquisition d'écoute. Okay. Toutes les semaines, tous les mois, pour le compte de leurs clients, des grandes marques, tout secteur confondu, que ce soit en B2B ou en B2C.
C'est un marché très structuré, l'audio, en vrai, en France et en Europe, ou ça reste encore un petit marché, toi qui dois bien connaître.
Alors, il y a deux questions dans la question. Ouais. Oui, comment ça se structurer. C'est le segment de marché dans les investissements médias qui croît le plus vite aujourd'hui, plus vite que la vidéo. C'est en 2021, c'est un marché en France qui faisait 47 millions d'euros d'investissement. T'en avais 73 l'année dernière. Et cette année, en 2023, on devrait arriver aux alentours de 100. Wow. Et t'as à peu près, comme je disais tout à l'heure, deux tiers sur du live, du replay, pardon, excuse-moi, et un tiers sur du natif et en consommation. Et donc, les investissements suivent à peu près ça. On va dire 40%, 35% sur les plateformes, la même chose environ sur les e-radio, et puis le reste sur des acteurs comme nous. Voilà.
Okay, donc c'est génial, un marché qui
se structure, qui pour un marché français qui n'est pas le plus grand en Europe, le troisième derrière l'Angleterre et l'Allemagne, il y a quand même un certain nombre d'acteurs et donc ça prouve le dynamisme du marché.
Quand même troisième en Europe, tu dirais ? Angleterre, Allemagne et France, c'est numéro 3 ?
Ouais, tout à fait.
C'est pas mal. Et leader, c'est US ?
En investissement publicitaire, dans le monde occidental, si on compte pas la Chine.
Tu mettrais US et
parce
après...
Parce qu'en fait, aujourd'hui, la Chine est le premier marché au monde en termes de consommation de podcasts, bien au-delà des États-Unis. Mais souvent, en fait, dans les rankings, dans les études qu'on nous sert, on considère plutôt le monde occidental avec effectivement Europe, États-Unis, okay. La TAM.
Bah, super intéressant, en tout cas passionnant et bravo pour toute ton expertise. Et alors la question sur l'aspect monétisation, évidemment, qui est souvent un petit peu j'allais dire le parent pauvre, mais aujourd'hui c'est vrai que c'est le challenge en tout cas. Mais bon, tu te dis, c'est un marché qui se structure quand même. 100 millions, ça commence à, effectivement. Je sais pas combien est le marché de la vidéo. On est peut-être en dizaines de milliards, j'imagine, sur l'Europe et même plus. Mais comment tu réponds à ce sujet monétisation ? Parce que je sais aussi qu'il y a des boîtes qui se sont montées, des Magellan et autres. Bon, je connais pas toutes les coulisses, mais je sais que c'est des boîtes où c'est pas si simple. Justement, ouais. D'amener les revenus. Peut-être si tu peux en parler en quelques mots, bon, sans être trop technique non plus. On n'est pas
non,
que
non.
Là.
Alors, bon, nous, c'est notre métier. Moi, c'est mon ADN de.
Oui, en plus, tu viens de là,
digitale.
Quoi. Tu viens de la pub.
Le sujet, c'est la monétisation. La monétisation, on l'opère assez simplement. D'un côté, on a toute ce qu'on appelle la tuyauterie programmatique, c'est-à-dire qu'on est connecté. On a une spécificité par rapport au reste du marché, c'est qu'on est agnostique vis-à-vis des SSP. Les CSSP, ce sont ce qu'on appelle les supply-side platforms. Donc les plateformes, on l'a compris, qui permettent de vendre. Et aujourd'hui, on en a agrégé presque une dizaine, les spécialistes de l'audio, mais aussi des grandes généralistes. D'accord. Qui nous permettent, comme c'est un marché qui est encore peu mature.
Donc là, tu mets des Acast, Iacast, tout ce style de voix.
Non, Acast, ce sont des hébergeurs. Là, on va plutôt parler de plateformes comme AdSwizz, Triton, Soundcast.
Ok.
Mais aussi des généralistes comme Xander, Equative ou autres. Mmh. Et donc, ces gens-là nous permettent d'avoir accès à 99,9% de la demande en programmatique qui aujourd'hui, tout le trading en fait, des pré-rolls de ce qu'on appelle l'audio ads, hein, les 30 secondes, se fait de cette manière-là. Ensuite, on a développé le format qu'on vient d'évoquer d'acquisition d'écoute pour les podcasts de marque. Donc déjà, la combinaison de ces deux leviers, ces deux formats, permet de faire mieux, d'avoir des taux de remplissage et des ICPM, donc le poids, le prix au kilo, meilleurs que pour un grand nombre d'autres plateformes. Et ensuite, on commercialise également des formats qu'on appelle host-read. Mm-hmm. Donc là, c'est l'animateur du podcast qui, avant d'accueillir son invité, va faire la promotion du produit ou du service.
Là, ce que fait un peu Mathieu Stéphanie, je crois, sur Do It Yourself, il doit le faire un peu.
Oui, complètement. C'est exactement ce format-là. Donc, c'est vendu un petit peu plus cher que du... Enfin, même bien plus cher que du pré-roll, pardon.
T'aimes bien ça, en vrai, en tant qu'éditeur
ça, je vais y venir. Ça, la limite, c'est la limite de son audience. Et ça, mais ça fonctionne bien. Écoute...
Oui, ça peut être un peu plus naturel que le bandeau avant, qui est un peu bourrin, publicitaire.
Après, en intermédiaire, t'as ce qu'on appelle le sponsoring, où là, c'est pas la voix de l'animateur, mais c'est ce podcast vous est présenté par...
Ça, c'est Billboard.
Billboard qu'on voit un peu aussi en télé. Écoute, j'aime bien, je trouve, d'une manière générale, parce que mon avis importe peu ton audience, mais d'une manière générale, ce qu'on dit sur la publicité en audio digital dans les podcasts, c'est qu'elle est plutôt très bien acceptée. Et encore une fois,
c'est un peu moins intrusif forcément qu'à l'image.
Et il y a aussi beaucoup moins de pression que notamment en radio où tu es dans un tunnel de pub de 3, 4, 5, 6, 10 spots où là ton message il doit être extrêmement rapide, agressif, etc. pour sortir des autres. Et c'est aussi un des enjeux que j'ai vis-à-vis de ma profession, c'est de faire entendre à mes partenaires, les marques et leurs agences, que parfois il faut avoir un message qui soit adapté, puisqu'en fait le contexte dans lequel tu consommes un podcast il diffère aussi souvent de celui dans lequel tu consommes de la radio.
Voilà. Tu gères d'autres contenus audio, je pensais notamment à la musique, à la synchro, des agences comme Sixième Son. Tu vas sur ces terrains-là ou tu es avant tout sur du podcast édito?
Alors on est principalement sur aujourd'hui de l'audio digital avec du podcast natif, ce qu'on appelle du text-to-speech, donc de la fameuse technologie qui nous permet de convertir des textes en audio. On travaille avec l'industrie de la musique parce qu'en fait, eux ont des enjeux de faire découvrir leurs artistes. Comme c'est la bagarre sur les plateformes d'écoute ou vidéo, en fait, ils trouvent au travers d'Edisound un relais pour justement mettre les contenus de leurs artistes directement dans les oreilles de nos audiences. On est une audience qui est assez puissante en France puisqu'en fait, on a plus de 8 internautes sur 10 qui, au moins une fois dans le mois, est exposé à notre player. Donc, on a une capacité, une force de frappe qui est très importante. C'est de cette manière-là qu'on travaille aujourd'hui avec toute l'industrie de la musique.
Ok, d'accord. Et après, c'est un autre métier que de faire de la synchro ou des musiques publicitaires. Là, j'ai vu le sujet il n'y a pas longtemps sur... fondateur de Sixième Son qui avait fait tout le jingle pour la Coupe du Monde de rugby. Peut-être t'as vu ce truc-là. Oui, alors, ça, c'est encore un autre métier qui est plus du métier
de la prod
sonore et musicale, on va dire.
On ne fait pas de prod, on travaille toute l'industrie justement de la production. Donc moi, pour schématiser, je dirais que le monde du podcast, si on peut le synthétiser comme ça, il y a trois briques. Un, la prod. Donc là, il y a un écosystème avec tout un tas de studios. Tu as parlé de Marlène Gélan, Louis Média, Binge, Gilles Acclimé, etc. Madame Blackbeau, avec qui on travaille, qui sont des gens qui fabriquent des podcasts pour des marques. Mmh. Ensuite, il y a toutes les plateformes d'hébergement. Mmh. Tu en as cité une. Il y en a aujourd'hui un certain nombre françaises, internationales, etc. Et puis, toute l'industrie ensuite de la distribution. Et ça, c'est vraiment notre core business. Nous, notre ad tech est focus sur le...
Brand content, ça commence à arriver sur des formats un peu plus créatifs qui pourraient être avec des marques de parfums qui vont se dire, je vais me créer une espèce d'histoire, de narration. Ça, tu y crois beaucoup, ça? Des formats qui vont devenir de plus en plus créatifs?
J'y crois, je le vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce dont je te parlais. Quand on dit... des marques, des studios, des annonceurs qui viennent faire de l'acquisition d'écoute, ce sont pour leur podcast de marque. Donc là, en ce moment, on a plusieurs dizaines de campagnes, là où je te parle, d'acquisition d'écoute pour différents secteurs, dans le luxe, dans le B2B, dans l'industrie, dans l'énergie, dans le food,
ça s'ouvre,
le voyage. En fait,
si tu y a veux, pas pour... de limite à la comme pour... ça vient d'arriver il ouais. y a pas de limite à la créativité, c'est des nouveaux territoires qui arrivent quoi.
Complètement pour des tas de marques notamment B2B qui ont essoré les livres blancs les webinars etc. Bah, le podcast pour raconter des choses sur leurs produits qui sont peut-être un peu spécifiques etc. Ça s'y prête très bien, surtout qu'au départ, maintenant on a dépassé ce stade, mais au départ le podcast était quand même très urbain, CSP+, etc. Et puis pour les marques qui ont besoin aussi de créer de la relation peut-être un peu plus profonde qu'un mini-scroll d'une fraction de seconde sur une plateforme sociale, de s'engager de manière un peu plus puissante et avec les audiences.
Même sur des intranets, t'es déjà allé jusqu'à... Parce que c'est toujours une question... Parce que ça peut effectivement fidéliser des collaborateurs, des membres et tout. Et on se pose toujours une question de... Est-ce qu'à un moment, on va peut diffuser sur un channel un peu
comme interne ? Bien sûr, ça existe. On a beaucoup de clients qui créent des podcasts à l'interne. Quand on a fait 10 années de suite la vidéo du président, aujourd'hui, en 2023, on peut se dire que... les vœux audio, on peut l'écouter tranquillement sans avoir... Encore une fois, c'est... quelle est l'attention qu'on va avoir entre les yeux et les oreilles. Si on n'a que les oreilles, normalement, l'attention est quand même beaucoup plus forte que si on se laisse distraire par une image qui défile. Donc, le podcast pour les RH, ça fonctionne plutôt bien.
Bon, bah, Julien, super. Bah, écoute, Edison... Et donc, c'est bien, Edison. Il y avait un jeu de mots avec Edison, un peu, ou Edison
bien vu. En fait, quand j'ai... Au début... De mon projet, j'ai envoyé bien, en des mails à un certain nombre de partenaires et autres, et puis j'ai marqué projet podcast, et puis au bout du dixième, je me suis dit, mais il va falloir que je trouve un nom parce que j'en peux plus. Et j'ai cherché dans les voice, dans les sounds, dans les cases, il y avait quand même beaucoup de noms de domaines qui étaient déposés, etc. Puis je me suis dit, bon, je vais aller dans le côté historique, qui est l'inventeur du phonographe, Thomas Edison. Je travaille avec des éditeurs, Edison, ça, je trouvais que ça sonnait bien. Je l'ai envoyé à mes associés, ils ont aimé avec. Voilà.
Donc, je te confirme, c'est un très bon.
Eh ben merci.
Et parfait, on arrive dans la dernière partie du podcast. Alors ça, c'est la question que je pose traditionnellement aux invités. Alors là, je sors un peu du son. C'est les goûts que t'aimes en termes de films, de ciné, de séries, de musique ou même livres. Un peu des créations qui toi t'ont marqué plus en tant que spectateur ou lecteur, auditeur.
Écoute, moi je suis un passionné de. Je suis très sportif, donc je fais beaucoup de sport et notamment depuis que je suis tout petit, la montagne l'était comme l'hiver. Et j'ai découvert un auteur qui s'appelle Jean-Marc Rochette, pardon, qui fait des BD extraordinaires sur la montagne, la nature, les animaux et le rapport de l'homme à la montagne.
Il va où ?
C'est plutôt dans les Alpes. Lui, il est historiquement des Pyrénées, donc il en a fait une qui s'appelle le Loup. Il y en a une sur un petit ours. Il y en a une qui s'appelle L'Aile froide. Les dessins sont magnifiques. Okay. Lui, il a une super histoire et il raconte merveilleusement bien les histoires. Donc, pour les amateurs
de montagne,
et de BD, je ne peux que recommander.
Et c'est pas passé en audio encore. Alors, appel à Monsieur Rochette.
Il me semble l'avoir écouté sur un podcast il n'y a pas longtemps, parce que évidemment, j'écoute tous les podcasts de montagne. Mais
Tu vas où toi ? T'es plutôt Alpes, Pyrénées ? Tu vas dans quel coin ?
Là où on m'emmène et où les opportunités sont, mais oui, plutôt principalement en Savoie.
Ok, donc tu as dû bien aimer tous les films comme Into the Wild, où je pense aussi, je sais pas si tu as vu le film là, sur la Sylvain Tesson, bon c'est moins gay, mais tu as vu le film ou pas ? Avec du jardin ou...
Non, il me semble pas, mais...
C'est qui va faire, tu connais le pitch, il part un peu, il est dans un moment un peu burn-out, et puis il part dans la France pour traverser toute la France, parce qu'il avait, pas burn-out, il a un accident qui va être important quoi.
Okay.
Et donc c'est un film qui est sorti il n'y a pas longtemps.
Top.
Et ça c'était une passion personnelle. La montagne, t'avais envie de t'aimer, t'as toujours aimé ce sport en fait.
Ouais, j'ai toujours été attiré par ça. Après j'adore l'eau aussi, passer du temps au bord de la mer sur un bateau. J'ai beaucoup de passion comme ça.
D'accord. Bah, écoute, très nature en tout cas. Ça fait très audio d'ailleurs. C'est très propice à l'audio tout ce que tu dis. Et en musique ou en ciné, un film ou une musique qui t'a marqué ou...
Je suis très éclectique dans le son. Donc j'écoute vraiment que ce soit du classique, du jazz, du Brésil, du hip-hop, énormément, de l'électro. électro, donc en ce moment j'aime bien écouter Yuxek, un artiste électro français par exemple.
Tu jouais, t'as fait de la musique toi?
Jamais.
Ou t'as pas fait de
j'aurais
musique?
J'aurais adoré. Bah
avec ton parcours, ça te, tu pourrais.
Du piano, la guitare, etc. Mais
il est pas trop tard, tu vois.
Il est jamais trop tard, effectivement.
Il faut s'y mettre.
J'essaie d'apprendre des nouvelles choses régulièrement.
Moi aussi, mais... j'aimerais me remettre au piano, mais mais pareil, il faut un petit peu d'énergie, de motive et de.
Il faut du temps, quoi.
De discipline. Et puis, toute dernière question que je pose toujours aux invités, c'est le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui veut se lancer, aller, on va dire, dans l'entrepreneuriat, côté un peu marketing digital. Ce que tu as vécu, toi, un peu les un ou deux trucs que tu as appris, toi, finalement, dans ton parcours.
J'ai un peu peur d'être bateau, parce que je pense que tout a été dit sur ces sujets et que je n'ai pas vraiment de conseils à donner à grand monde, mais je crois surtout, c'est de croire en soi et d'avoir de la consistance et... continuer, persévérer, essayer, pas avoir peur de se prendre des murs et de faire des erreurs, parce que c'est comme ça qu'on grandit, qu'on accélère. Mais ouais, je pense que c'est aujourd'hui ça paraît tellement évident. C'est quand je me remets, quand moi j'étais plus jeune, on parlait pas trop de ces choses-là, etc. Aujourd'hui, tu ouvres Internet et tout le monde te dit ça.
Sur Instagram, les vidéos de coach entrepreneur.
C'est entre ceux-là et ceux qui font des posts. Oui. Inspirant sur LinkedIn, mais
c'est presque tout,
mais c'est vrai.
Il y a ce côté, c'est vrai, c'est très vrai ce que tu dis, cette espèce d'incantation de développement personnel permanent.
Il y a beaucoup de contenu hyper intéressant sur LinkedIn, mais ouais, il faut, c'est comme dans la vie, il faut faire le tri avec le reste, quoi.
Bon, écoute, Julien, c'était un grand plaisir de t'avoir pour ce podcast audio.
Plaisir partagé, merci beaucoup.
Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brain entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.